Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnels pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Avec notamment Christian Vélo, généticien, spécialiste des interactions entre environnement et santé. Et Jean-Marc Sopcich, médecin, expert des approches globales du métabolisme. Programme complet, intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogics, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogics offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement.
Santé 360, Stéphane Résimont sur Nutri Radio.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Fabrice.
Stéphane Résimont, chaque jeudi 17h-18h, c'est Nutri Radio Santé 360, une mission qui fonctionne de mieux en mieux. D'ailleurs, merci de nous suivre et de vous abonner au podcast pour ne rien rater des nouvelles émissions. Merci à notre partenaire laboratoire Nutrilogics, spécialisé dans la fabrication de compléments alimentaires, et ils formulent leurs produits avec l'aide de médecins et d'experts pour vous donner le meilleur du meilleur. Aujourd'hui, on va faire une émission. Là, j'ai longuement réfléchi à se dire, est-ce qu'on fait cette émission ou pas, parce que c'est des sujets qui sont qui sont sensibles, on va dire. On va parler du cancer, cancer et des traitements avec vous Stéphane, mais pas seulement, puisque nous sommes également avec Lionel Gillot, qui est docteur en biologie médicale, docteur en sciences biologie médicale, et qui a fait une thèse sur la cancérologie, et on va parler d'oncologie intégrative. Bonjour Lionel.
Bonjour Fabrice.
Vraiment merci d'être avec nous pour cette conversation entre Stéphane, Lionel. J'essaierai d'animer comme je peux, mais vous disiez, vous Stéphane, en introduction hors antenne, qu'il y avait vraiment aujourd'hui une prise en charge métabolique du cancer et des choses qui évoluent, et donc vous teniez à en parler.
Tout à fait, tout à fait. Non, c'est une révolution qui est en cours. Alors pour situer, bon, mon expérience perso, c'est que j'ai travaillé en cancérologie pure et dure de fin des années 80 dans un hôpital bruxellois à l'Institut Bourdet qui ne fait que du cancer. Donc j'ai quand même une certaine expérience sur le terrain des cancers, même si je travaillais en pathologie cervico-faciale, donc tout ce qui est cancer tête et cou. Et bien évidemment, j'étais confronté à des patients qu'on traitait par des chimiothérapies, par des radiothérapies, par la chirurgie. On faisait des toutes grosses interventions avec des reconstructions. Et puis est apparue l'immunothérapie. Donc on essaye que les défenses immunitaires du patient combattent la tumeur elle-même, avec des succès et parfois moins de succès. Et alors actuellement, depuis quelques années, on parle de plus en plus de la prise en charge métabolique du cancer. Alors tout simplement, pourquoi ? Pour faire bref, il y avait une ancienne théorie qui est tout à fait mise à mal actuellement, que finalement les cancers seraient dus à des lésions de nos chromosomes, de notre ADN, par des agressions extérieures, que ce soit métabolique, que ce soit par la pollution, que ce soit par des radiations. Et finalement, en modifiant notre ADN, eh bien, la cellule se met à proliférer. Et la télomérase est très efficace, et donc ces cellules ne meurent pas, en fait. Donc ça, c'est l'ancienne théorie qui est en partie vraie, mais en grande partie fausse. Et puis, il y a eu des théories dans le passé, comme Warburg, qui a eu un prix Nobel il y a une soixantaine d'années, en disant que finalement, les tumeurs ne se restaient que de glucose, que de sucre, et que si on empêchait cet apport de glucose, de sucre, eh bien, on a tué la tumeur. Alors, c'est vrai qu'en partie, c'est vrai, mais en grande partie, c'est faux également. Donc, il y a pas mal de théories qui se révèlent en partie vraies. Et il y a eu un Français pour l'Europe, et c'était déjà un mouvement qui était initié aux États-Unis, il s'appelle Schwartz, cancérologue parisien, qui a proposé il y a quelques années déjà une prise en charge par de la phyto, le Garcia Cambogia, par l'acide folipoïque, de prise en charge du cancer. Alors c'est vrai que ça amène une amélioration, certains mettent en évidence des guérisons semble-t-il, mais évidemment comme tout évolue en médecine, ça évolue très vite. Même Schwartz actuellement rajoute à son protocole des molécules autres comme le biométhylène, les antiparasitaires, et donc on est en pleine révolution, parce qu'on voit maintenant, alors pour terminer, je terminerai là, je laisse la parole à Lionel après, je vois maintenant des patients qui ont des stades 4, des stades métastasiés du cancer, et je les vois avec une prise en charge métabolique spécifique qui ne contradit pas une prise en charge normale, je dirais, reconnue du cancer, hein, tout ce qui est chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, et bien on voit des patients qu'on croyait foutus, et on les voit survivre, les métastases disparaître. De nouveau, il faut bien mesurer mes mots, c'est pas dans 100% des cas, c'est un certain nombre de patients, et je ne peux pas dire actuellement si c'est 80, 90% des patients qui vont se trouver améliorés, mais en tout cas on voit des trucs spectaculaires au niveau du cancer.
En tout cas, c'est une amélioration, évidemment, et on est obligé de mettre beaucoup de réserves. On pense au docteur Laurent Schwartz et des expérimentations, des choses, on essaie d'avancer et de guérir cette maladie dont on meurt encore trop souvent, évidemment. Ce que vous dites, c'est en complément du traitement que vous donne votre oncologue et votre médecin, il y a donc cette complémentarité qui peut s'opérer et pour laquelle on observe des effets intéressants. Et rapprochez-vous évidemment et n'interrompez pas de traitement, ne remplacez rien et on ne parle pas de guérison. On dit simplement qu'il y a des traitements qui sont parfois lourds, parfois efficaces, mais peut-être un peu plus efficaces encore avec une synergie autour basée sur de la phyto, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel ?
Je suis entièrement d'accord avec ce que Stéphane a dit. C'est vrai que cette théorie de mutation de l'ADN, elle est un peu dépassée. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui contredisent maintenant cette théorie-là. Et il y a pas mal de choses aussi qui interviennent sur ce métabolisme des cellules cancéreuses. Qui est assez importante. Et donc, comme Steph le disait, il y a le protocole Schwartz, il y a les traitements, il y a certaines plantes, il y a certains antiparasitaires, etc., qui peuvent bien fonctionner. Maintenant, on parle aussi d'oncologie intégrative. Il y a aussi tout le volet bien-être, dans le sens où mode de vie, l'alimentation va être importante, l'activité physique va être également importante. On entend parler de jeûne intermittent, de régime cétogène. Tout ça, c'est des choses aussi qui vont jouer énormément sur le métabolisme du corps, mais notamment de la cellule cancéreuse, puisque en faisant un jeûne nocturne ou intermittent, on va évidemment venir faire chuter l'insulinémie, ce genre de choses. Donc, on va réduire la résistance à l'insuline, on va venir couper, entre guillemets, un peu cette alimentation des cellules cancéreuses, avec aussi une réduction des effets secondaires, ça a été prouvé. Et puis il y a tout un volet aussi sur l'activité physique, évidemment adaptée, attention quand même en parcours de soins, faut pas non plus exagérer, mais avoir une activité physique qui est adaptée à la personne permet aussi d'améliorer nos chances de survie d'arriver à combattre la maladie en fait.
Alors est-ce qu'il y a des hypothèses, vous voulez rajouter quelque chose Stéphane ?
Oui, tout à fait. Donc, par rapport à ce que Lionel vient de dire, je vais donner récemment une conférence sur la sarcopénie, donc la perte musculaire liée à l'âge. Et on se rend compte qu'en cas de cancer, on peut avoir jusqu'à 35% de guérison en moins du cancer, rien que parce qu'on arrive au cancer avec une perte musculaire importante liée à l'âge. Donc, ça veut dire que le fait de garder sa masse musculaire en faisant du sport, pas tous les jours, mais enfin, sauf si on a un métier physique, si on est bûcheron, maçon, il n'y a pas besoin de faire du sport. Mais si on est un métier sédentaire, le fait de garder sa masse musculaire avec l'âge a un effet nettement favorable par rapport à la survie liée à un cancer.
Alors ça, c'était effectivement, on le dit, il y a un aspect prévention qui est très très important, même si aujourd'hui, on se dit, mais on a l'impression que plus personne n'y échappe. On a tous autour de soi ou des gens qui sont concernés. C'était pas comme ça auparavant.
Alors, qu'est-ce que tu appelles auparavant ? Moi qui suis quand même très branché cancer, je vois en effet depuis 5 ans des cancers fulminants chez des jeunes, des cancers turbo. C'est impressionnant ce qu'on voit. C'est vraiment, il y a un changement de il n'y a pas que moi, tous mes collègues qui travaillent en cancéro le voient. On a vraiment des cancers qui surviennent 15, 20 ans plus tard qu'habituel. On voit des cancers du côlon chez des jeunes adolescents. On voit des cancers prostate chez des ados. On voit des trucs qu'on ne voyait pas avant.
On va pas. Oui, pardon, excusez-moi.
Et je me permets de rajouter quelque chose. Il faut quand même savoir que le cancer reste quand même la première cause de mortalité dans les pays industrialisés, ce qui n'est pas le cas dans les pays en voie de développement. Et on sait bien que dans ces pays-là, le dépistage n'est pas comme chez nous, mais ils ont aussi un mode de vie beaucoup plus où ils sont beaucoup moins sédentaires. Ils ont ils reviennent aussi à une alimentation qui est beaucoup moins transformée. Donc, je pense que vraiment cet impact du mode de vie est énorme. Et on a des explosions d'obésité, on a des explosions de diabète, toutes ces choses-là aussi qui jouent sur le risque d'apparition du cancer, qui fait qu'on est dans des explosions maintenant qui s'observent, en fait.
On va marquer une première pause et on va se retrouver dans un tout petit instant. On va encore développer ces hypothèses émergentes hein, qui permettent de lutter contre le cancer. On va parler des mitochondries dans un tout petit instant, si vous voulez bien. Oui. C'est juste après ceci.
Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être ? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé.
Santé 360, Stéphane Résimont sur Nutri Radio.
Et alors, c'est la dernière émission de l'année de Santé 360. Franchement, on va se retrouver la saison prochaine, évidemment, mais là, c'est passé à une vitesse avec vous, mon cher Stéphane. Je ne sais pas si vous avez pris du plaisir, mais nous et nos auditeurs, franchement...
Énormément, oui, tout à fait.
Bon, et
alors, je sais pas si tu as vu les statistiques, j'ai reçu une stat comme quoi nos podcasts étaient vachement regardés, c'est chouette.
Top 14, donc toi, merci à vous tous et partagez ces contenus, gardez pas ça pour vous, en plus c'est bien parce que ça fait beaucoup parler, tous ces sujets, donc ça fait avancer, c'est comme ça aussi que ça nous permet d'évoluer. Donc aujourd'hui on parle du cancer, on a vu que le mode de vie était prépondérant, que ce soit en phase de prévention et même en phase de récupération et même la manière dont on va accueillir les traitements dans l'organisme. Il y a des hypothèses qui émergent basées sur la glycolyse, les mitochondries. Vous pouvez en parler peut-être, Lionel ?
Oui, alors c'est maintenant plus que des hypothèses, hein, ça a été montré. Donc il y a vraiment en fait ce switch hein, métabolique qui se fait dans les cellules cancéreuses où de manière très brève, dans une cellule saine, on va avoir soit en présence d'oxygène, on va faire ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, ou en absence d'oxygène, on va faire la glycolyse et notamment la fermentation. Sauf que dans une cellule cancéreuse, c'est un petit peu particulier parce qu'on a de l'oxygène quand même et elles font ce qu'on appelle cette glycolyse anaérobie et donc elles vont produire énormément de lactate en fait. Ce qui n'est pas avantageux en termes de quantité énergétique pour elles, mais ça leur permet de produire rapidement en fait de l'énergie et donc en produisant rapidement de l'énergie, elles vont pouvoir grandir et se multiplier. Alors là, on parle du glucose, mais il y a quand même aussi d'autres voies qui vont permettre d'alimenter cette source d'énergie, puisque bon, une mitochondrie dans une cellule cancéreuse n'est pas 100% déficiente, elle va quand même fonctionner, mais de manière très différente. Et donc, à ce moment-là, il va s'ajouter aussi un détournement au niveau de la glutamine et d'autres constituants. C'est pour ça aussi que tout ce qui va être réduction au niveau alimentaire des sucres va aider, mais réduire totalement les sucres, soigner le cancer, je veux dire, à 100%, on le saurait et ce serait plus un problème pour à l'heure actuelle. Donc il y a quand même aussi des lipides, etc., qui peuvent intervenir. Et donc on a vraiment ce switch métabolique qui s'opère dans ces cellules cancéreuses. Et d'ailleurs, ça avait été montré hein, que l'implantation de mitochondries cancéreuses dans un cytoplasme de cellules saines donnait des cellules cancéreuses, alors qu'un noyau d'une cellule cancéreuse mis dans un cytoplasme de cellules saines ne donnait pas de cellules cancéreuses. Donc ces expériences ont vraiment, on va dire, cassé, je dirais, cette théorie des mutations de l'ADN en faveur plutôt de cette théorie métabolique, en fait.
On parle de plus en plus d'oncologie intégrative. Comment vous la définissez simplement ?
Je dirais que c'est une prise en charge en fait globale en fait de la personne allant de son alimentation, de son activité physique et aussi en l'accompagnant au niveau des traitements conventionnels et en limitant, je dirais, les effets secondaires et en favorisant également par d'autres choses. On parlait des antiparasitaires, on parlait du protocole Schwartz, en mettant en place également ce genre de protocole en parallèle en fait.
Et est-ce que aujourd'hui ça continue à se développer, mais ça fait pas encore l'unanimité? Il y a encore beaucoup de frictions ou d'incompréhension entre l'oncologie intégrative et puis l'oncologue, on va dire traditionnel. Comment on peut faire pour que les passerelles se créent et ne pas effrayer le patient qui lui parfois il en subit un peu les conséquences?
Alors, ça, je peux vraiment donner mon avis là-dessus parce que j'ai affaire constamment avec des collègues cancérologues et des patients qui ont des cancers. Simplement, alors je donne un exemple, hein, parce que c'est important d'en parler. J'ai des patientes, de temps en temps, qui développent un cancer du sein. Il y a des protocoles. Les protocoles, c'est, ben, on opère. On retire le ganglion sentinelle, voir s'il est touché. En fonction de ça, on dirige le traitement vers une radiothérapie complémentaire, voire une chimiothérapie complémentaire, voire un traitement immuno. Et également, dans le protocole, fait partie, si elle a des récepteurs sensibles, hormonosensibles, on donne un traitement anti-hormonal. Donc, en gros, on coupe leurs œstrogènes. Et moi, personnellement, je déconseille à ces patientes de le faire parce que je leur liste les effets secondaires de ce traitement anti-hormonal qu'on associe dans le protocole du cancer du sein. C'est qu'elles vont avoir l'ostéoporose, elles ont plus de risques de neurodégénérescence, elles vont avoir une sarcopénie, elles vont perdre leur libido, elles vont perdre leur masse musculaire, elles vont développer un syndrome métabolique. Et donc, finalement, le gain gagné de ce traitement anti-hormonal dans la prise en charge du cancer du sein est largement surcompensé par les décès liés à d'autres complications. Donc on peut, et j'ai pas mal de cancérologues sur Bruxelles, quand je dis ça à la patiente, que je mets dans mon rapport de consultation, le cancérologue, il dit, OK, pas de souci, je n'insiste pas, on ne fait pas cette partie-là du traitement. Donc même les traitements, les schémas de traitement qui sont standardisés peuvent être discutés si l'interlocuteur de l'autre côté est ouvert d'esprit.
Voilà.
Et d'un autre côté, j'ai des patients qui ont des cancers, je sais pas, prostate ou autre. Ils rentrent dans un protocole de traitement. Donc, j'envoie chez des oncologues, je reconnus, que je sais qu'ils travaillent très, très bien. Mais en parallèle, je les envoie chez une collègue thérapeute qui est pointue dans la prise en charge métabolique du cancer. Et je dis à ces patients-là qui ont des oncologues que je ne connais pas, vous ne dites rien du tout, vous faites les deux traitements en parallèle. Et j'ai parfois des retours de l'oncologue, je dirais, traditionnel, qui est assez impressionnant, disant je comprends pas. Ce patient qui était métastasié, les métastases régressent, il n'y en a plus. Il survit alors que j'ai donné une chance de survie de 3-4 mois. C'est parfois spectaculaire ce que cette addition à la prise en charge classique peut amener comme bénéfice.
Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas quand même ce côté plus collaboratif et donc à prendre quand même avec beaucoup de pincettes.
Oui, tout à fait.
Dites-moi, Lionel.
Exactement, ouais. Et je voulais juste rajouter aussi une chose, parce que Stéphane parlait des traitements de la ménopause, mais même aussi chez des jeunes femmes, hein, parce qu'il y a de plus en plus de cancers du sein chez des femmes dans la vingtaine, la trentaine, et on leur donne aussi un traitement qui va inhiber les hormones, mais ce sont des femmes qui sont potentiellement aussi en désir de grossesse, etc. Donc, avec tous les effets que Stéphane a énumérés, c'est aussi les effets secondaires, c'est aussi, je trouve, triste en fait d'arriver si jeune finalement à tomber en ménopause suite à un traitement hormonal, alors qu'on sait que les hormones, c'est l'équilibre hormonal est très important et beaucoup plus subtil qu'il faut arrêter d'en donner ou il faut couper, on va dire, cette source hormonale, ce qui n'est finalement pas vrai en fait. C'est un équilibre vraiment à avoir et je trouve ça parfois, oui, un peu dommage que c'est très vite catégorisé. Hop, on doit donner un traitement anti-hormonal et notamment, je trouve aussi, Stéphane a parlé des femmes en ménopause, mais je trouve aussi chez ces jeunes femmes qui sont en pleine. En plein dans leur début de la vie, en pleine croissance et éventuellement en désir de grossesse et en pleine sexualité également.
Il faut savoir que concernant le cancer de la prostate chez l'homme, dans les années 40, il y a Higgins qui a publié à partir de Wicca, qui était foireux, le fait que couper la testostérone, donc en gros, on retire les testicules du patient, on les met à la poubelle, et bien les métastases du cancer de la prostate régressaient fortement. Et donc, on a, par la suite, on a pu retirer les testicules, on a des traitements hormonaux anti-testostérone, et on s'est rendu compte, en effet, que momentanément, les métastases diminuaient, la tumeur diminuait, mais ça repartait après. Et actuellement, on a la notion que quand on traite un cancer prostate par des anti-hormones, anti-testostérone, eh bien, le patient finalement ne meurt plus du cancer prostate, mais il meurt d'infarct, d'AVC ou de démence d'Alzheimer. Alors, je schématise, hein, je suis un peu, je résume très très fort, mais il faut savoir que ces traitements anti-hormonaux ont des effets secondaires majeurs en fait sur la santé.
Ouais, mais après, oui, Lionel?
Bah, c'est surtout aussi que finalement, si on regarde peut-être un peu plus en détail, chez ces personnes-là, elles vont avoir en effet des soucis au niveau testostérone, mais généralement, il va y avoir aussi un déséquilibre avec les œstrogènes qui seront perturbés. Donc, c'est vraiment cet équilibre testostérone-œstrogène qui va aussi perturber au niveau prostate. Et donc, oui, de nouveau, c'est un peu radical de venir dire on coupe la testostérone tout simplement, alors que derrière, on sait aussi que les œstrogènes, en tout cas dans le développement du cancer de la prostate, peuvent influencer donc et on ne les regarde généralement jamais chez les hommes puisqu'on classifie les œstrogènes comme étant hormones féminines.
Alors ça, c'est vraiment un vaste sujet et l'intérêt, c'est vrai que franchement, c'est la survie du patient. Donc, si avec ces traitements, bon, il y a des effets secondaires qui entraînent une autre mortalité, c'est encore un autre sujet. Je pense que la science, elle va continuer d'avancer, d'où l'intérêt évidemment de collaborer entre professionnels et de s'appuyer sur des études scientifiques, mais surtout sur du dialogue, parce qu'on parle souvent du dialogue patient-médecin. Je pense qu'il faudrait encore plus parler du dialogue entre médecins, entre scientifiques. Sur des méthodes qui sont aussi parfois complémentaires. Parce que c'est souvent, enfin, je ne sais pas si les patients, les gens qui écoutent cette émission sur d'autres sujets peut-être aussi, parfois sont baladés entre deux avis différents et on n'ose pas forcément dire à un médecin ce qu'on prend par rapport à l'autre. C'est compliqué, hein, parfois ce dialogue entre vous.
Bah, je pense que c'est compliqué, mais les patients sont demandeurs parce que bon, il n'y a rien à faire, ils ont aussi cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et ils ont envie de donner toute leur chance en fait pour pouvoir vaincre la maladie. Et donc les patients sont, je pense, demandeurs. En tout cas, ceux que je vois sont vraiment demandeurs de ces différentes approches parce que ben voilà, ils voient qu'ils ont des effets secondaires et qu'on leur dit que c'est normal. Et donc, voilà, ils sont un peu, je dirais, perdus dans un sens et où ils ne se sentent pas toujours bien accompagnés non plus. On leur dit qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent, alors que c'est une erreur. Enfin, je veux dire, vous allez dans un hôpital, dans le département des personnes qui font une chimiothérapie, ils sont en train de boire du coca, manger des gaufres. Enfin, bon, je vulgarise et je schématise très fort, mais c'est ce qui se passe, alors que bon, normalement, on ne devrait pas leur proposer ça, en fait. Donc, mais ils sont, du coup, les patients sont demandeurs de ces nouvelles approches.
En tout cas, nous aussi, on est très demandeurs et j'imagine que, alors, il faut avancer. La lutte, elle n'est pas gagnée du tout. Et si on applique les mêmes méthodes qu'il y a, qu'on a fait jusque-là, bah forcément, on prend peut-être aussi du retard sur une autre vision, savoir changer un peu son braquet, savoir avoir une compréhension peut-être plus 360, comme dirait l'autre. Merci pour merci pour ce partage, merci pour ces informations.
Fabrice, dernière chose, parce que je crois que le public est peut-être en attente du nom de certaines molécules qu'on utilise dans la prise en charge métabolique du cancer, mais simplement les oméga-3, enfin du cancéreux, la vitamine D, très importante, même quand on a déjà un cancer, et même surtout les vitamines B également. Là, on a également comme molécule utilisable la berbérine, on a
Exactement.
le. Alors, on a également de la mycothérapie importante, et actuellement, on connaît le bleuméthylène, le dioxyde de chlore, on connaît l'ivermectine,
Hydroxycitrate, l'acide alpha
l'imidazole.
lipoïque.
Voilà. Et aussi les antiparasitaires, qu'on a l'ivermectine, mébendazole, qui ont des effets spectaculaires au niveau de certains cancers. Et alors, également, on peut utiliser l'artémisia également, qui a des effets importants sur les métastases d'un cancer, certains cancers.
Alors,
Donc, c'est une révolution qui est en cours, en
bon,
fait.
en tout cas, cette révolution, on l'a bien noté, et tous les ingrédients que vous avez cités, bien évidemment, ne remplacent pas du tout un traitement. Donc, consultez votre oncologue, voyez, voilà, faites ce qu'il vous dit, mais peut-être aussi vous pouvez évoquer et même partager cette émission pour savoir ce qu'il en pense et qu'il lui-même fasse des recherches sur ces ingrédients, parce que peut-être en
Tout à
complément
fait.
du traitement conventionnel, ça peut permettre de potentialiser, hein, peut-être évidemment, les résultats. Et si on a plus de chances de guérir en ajoutant ces choses qui en plus sont naturelles ou qui sont en tout cas d'intérêt, eh bien voilà, pourquoi pas. Mais encore une fois, cette émission ne se substitue pas à l'avis de votre oncologue. On a deux oncologues, on a deux professionnels avec nous et on a vraiment la chance de les avoir. Merci pour cet éclairage, merci pour ces informations qui ne sont que des informations. Et je le répète, parce que là, c'est ceinture et bretelles, vous avez compris, sur ces sujets qui sont très délicats. C'est important de partager le savoir, de partager les pistes d'amélioration, cette prise en charge métabolique en complément de la prise en charge conventionnelle avec votre oncologue. Ça peut être des pistes. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas trouvé, de toute façon, on va continuer à creuser pour y arriver, on va pas laisser tomber quand même.
Non, non, c'est sûr.
Bon, okay.
Il ne faut pas.
Merci beaucoup, Lionel. Merci beaucoup, Stéphane. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Oui. À bientôt à tous.
À bientôt.
À bientôt.
C'est quoi
bonne
le programme
soirée.
Pour les fêtes, c'est quoi?
En famille.
Point d'interrogation.
En famille.
Voilà, Stéphane,
simplement.
Stéphane, j'ai une petite idée.
Point d'interrogation.
Allez, c'est le retour de la musique sur Nutri Radio. Et sachez que cette émission, vous la retrouvez en podcast tout de suite sur toutes les plateformes de streaming audio.
Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio.